Claudio Abbado, la direction des Berliner Philharmoniker dans le troisième mouvement de la troisième symphonie en fa majeur de Johannes Brahms.
Bazar, passage à l'acte.
Nous voulons vous commander un opéra.
Un opéra en allemand.
Une pizza, c'est un lutz.
Benjamin Britten et Peter Peers ont conjointement réalisé le livret de cet opéra en respectant de très près les vers de William Shakespeare, auteur de la pièce A Midsummer Night's Dream. Cette nuit d'été, qu'elle soit celle du solstice, donc de la Saint-Jean, de la Miaou, donc de la fête des chats, ou bien qu'elle s'étale en réalité sur plusieurs nuits, est une nuitée féerique. Elle est en porte-à-faux entre les mondes, entre la ville, Athènes, et la forêt. Elle permet le passage de l'univers des fées à celui des humains, celui de l'éveil à celui du sommeil. En somme, c'est un navire à voile et à vapeur, et parmi les différents moyens artistiques que Britten met en place pour lui faire prendre la mer, il sollicite une voix bien particulière, celle du contre-ténor. Quand on dit contre-ténor, eh bien on ne dit rien. C'est que ce mot a différents sens selon qu'on considère le terme dans son acception historique ou théorique. Le contre-ténor, c'est d'abord une ligne ou une voix écrite de la polyphonie médiévale par opposition à celle du ténor. La voix de contre-ténor est celle qui dialogue avec celle du ténor, le plus souvent au-dessus, mais sans exclure le dessous. Aucun préjugé de sexe ni d'âge quant à l'exécutant. Par anglicisme, il y a ensuite le counter-tenor. Je trouve que je l'ai bien fait. Très textuellement, en français, le contre-ténor. Un terme qui englobe les voix d'hommes aigus et donc le falsetto ou encore le haute contre français. Décidément, le contre-ténor est une voix de passage qui met le passé au présent, qui fait passer un homme pour une femme, pour un enfant, pour un surhomme ou pour un autre genre de créature. Dans le songe d'une nuit d'été de Britten, c'est le cas du roi des fées, Oberon, un rôle écrit sur mesure pour le contre-ténor Alfred Deller. Alfred Deller ici en Oberon dans la distribution originale du songe d'une nuit d'été de Britten. Dans une forêt près d'Athènes, au temps des mythes, Oberon et Titania, roi et reine des fées, se sont querellés au sujet d'un enfant. Hermia et Lysandre ont fui la ville dans l'espoir de se marier secrètement. Démétrius part à la recherche d'Hermia, qui lui est promise, lui-même suivi par Helena, avec laquelle il formait jadis un couple. Oberon ordonne à son acrobate Puck de verser sur les paupières de Démétrius le suc d'une certaine plante afin que celui-ci retombe amoureux d'Héléna. Voilà, il veut donner un coup de main. Oberon compte faire la même chose avec son épouse Titania, mais pour se jouer d'elle. Bon, voilà, voilà où nous en sommes à présent, à cheval. Nous avons fait la connaissance de personnages féeriques, des amoureux. Voici maintenant les artisans comédiens. Une drôle d'équipe de bourrins. Oui, en tout cas, c'est par rustics que les désigne Shakespeare. Les croquants, les ploucs, si vous préférez. Ils sont au nombre de 6 et ont des noms plutôt fleuris. On commence par leur chef, c'est Quince. Quince, ça veut dire coin, le fruit, ou coin, l'angle, ou la pierre d'angle. Ensuite, il y a Snug, c'est celui qui se blottit. Flûte, c'est une flûte. Snout, c'est un groin, donc par sinecdoque, doc, un porc. Starveling, c'est un affamé. Et enfin, il y a Nick Bottom. Bottom, le fond, voire le fondement. Bref, le cul, C-U-L. Voilà, appelons les choses par leur nom. Excusez-moi, ce monsieur s'appelle en réalité, dans la traduction, Nico Lafesse. Voilà, il faut le dire. Ce Bottom, il va jouer un rôle prépondérant. Donc, les 6 artisans débarquent dans la forêt afin de monter une pièce de théâtre qu'ils donneront à l'occasion des épousailles de Thésée et d'Hippolyta. Cette pièce, c'est Pyram et Thisbé. Quince, le meneur de ces artisans comédiens, distribue les rôles. Nicolas Fess, alias Bottom, est très très enthousiaste. Il dit « Nomme le rôle qui m'est destiné ». et continue. Voilà, lui, ça lui est égal. Mais en fait, ça lui est pas vraiment égal, parce que quand il apprend qu'il doit jouer Pyram, un type qui s'auto-tue par amour, bah, il tire un peu la tronche, le père Bottom. Il se met à vouloir piquer les rôles des autres, par exemple le rôle de Tisbé, et montre à quel point il a une belle voix de tête. Mais Queens, qu'on vient d'entendre, n'entre pas vraiment en matière. Pour lui, c'est tout à fait réglé. Voilà. The play is fitted. Le rôle du lion sera pour Snug, qui désire voir le texte assez rapidos, mais comme le texte, bah, c'est juste des rugissements, il n'en a pas vraiment besoin. Ceci fait surgir les velléités de fauve de Bottom, monsieur Lafesse, qui prétend pouvoir rugir à en faire redemander le duc d'Athènes. Voilà. Tout ça sur un accompagnement de trombone. Queens clôt définitivement, ou plutôt definitively, la conversation et envoie tout le monde à prendre sa partie. Et cette orchestration qui traduit les rustres, trombones, bassons, des cuivres graves, des percussions, un air un peu bourrin. Bon, on retrouve ensuite les amoureux Lysandre et Hermia qui se préparent à faire un gros dodo sur l'humus de la forêt. Lysandre a bien envie de faire dodo sur l'humus d'Hermia, mais celle-ci l'envoie balader ses idées salaces un peu plus loin. C'est là qu'arrive notre ami Puck, lanceur de couteaux, venu accomplir sa mission, c'est-à-dire droguer Démétrius afin qu'il tombe amoureux d'Héléna. Mais il est en train de se gourer, Puck, parce que c'est pas Démétrius qui fait dodo sur l'humus, c'est Lysandre. J'ai envie de dire patatras. Through the forest have I gone. But Athenian found I none, on whose eyes I might approve. This flower's forced in stirring love, night and silence, night and silence. Who is here? Who is here? Weeds of Athens he doth wear. This is he, my master said, despised the Athenian maid. Churl upon thine eyes I throw the power this charm doth hold. Puck, rôle parlé ici dans la version de création de 1960 par Stephen Terry. Puck, qui est donc le responsable de la confusion amoureuse qui va suivre dans ce songe d'une nuit d'été avec le coup de la poudre de perlimpinpin qu'on vient d'entendre et cette montée à la trompette un peu stridente. Héléna tombe sur Lysandre endormi qui vient de recevoir le suc des mains de Puck. C'est très difficile à dire tout ça. Elle se plaint d'être moche. Voilà, elle trouve qu'elle ressemble à un ours. Moi, je sais pas si vous avez déjà l'impression de ressembler à un ours. Enfin bon, voilà, c'était une comparaison qui vaut une autre. Parce que c'est vrai que c'est une condition ennuyeuse quand même d'être laide. Alors elle a le droit de s'en plaindre. Et puis ensuite, elle réveille Lysandre. Après cela, le suc magique opère. Il aime Héléna. Il est tombé amoureux. Voilà. Je courrai à travers les flammes pour l'amour de toi, dit-il. Il lui vient tout à coup une idée assez intéressante. Buter Démétrius. Il laisse Héléna en plan, alors qu'Hermia se réveille et ne trouve naturellement plus son amant. À la suite de cela, on entend un magnifique air de la reine des fées, Titania, qui congédie sa suite et s'apprête à se cadrer. Elle va au plumard. So Regina Muhlemann en Titania dans Come Now Randall, dans Le songe d'une nuit d'été de Benjamin Britten. Nous refermons ce passage à l'acte avec un extrait choral qu'on entend à la toute fin du premier acte de cet opéra. Les fées, créatures mi-malines, mi-mignonnes, qui protègent leur reine des serpents tachetés à double lard. Ça, c'est intéressant, un serpent tacheté à double lard. Bon, hérissons épineux, salamandres, orvets, araignées fileuses et limaçons. Les fées ne sont pas forcément des femmes au passage. Et d'ailleurs, dans l'enregistrement qui a été réalisé en 1960, à la suite de la création du songe, ce sont des enfants qui les incarnent. Le chœur de l'Emmanuel School est l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Benjamin Britten dans son opéra Le songe d'une nuit d'été. Cette séquence opéra est à écouter tous les soirs à 18h dans Bazar. Bazar sur RTS Espace 2, c'est aussi sur l'application Play RTS. Bonsoir à vous.
Bazar. Thank you.
de la musique de chambre signée Zdeněk Fibich, le premier mouvement de son trio pour piano, violon et violoncelle en fa mineur, interprété par le trio Helios.
Thank you.
La deuxième ballade en fa majeur de Frédéric Chopin par Alexandre Tarot. Edinae Setorca. J'espère que je l'ai dit juste, je suppose que je l'ai dit faux. C'est une composition du balkanique Nestor Kok Rakia. ça à tous les coups, je l'ai dit faux, compositeur du film, de la musique du film Borat. Vous savez, Borat, sorti en 2006. Bon, il était là avec son Kotchani Orchestar.
Bazar, le best-of.
RTS, espace 2.
Nous vous avons mijoté un show aux petits oignons aujourd'hui et nous vous présentons une des plus belles et talentueuses chanteuses de ce bas monde.
L'italien est propre à servir l'opéra.
Ah bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, ah te fortuna non manquera.
Dans Bazar, on passe l'acte.
Fedora, c'est un produit de la jeune école italienne, la Giovane Scuola, groupe de compositeurs d'opéra auquel appartenaient entre autres les Catalani, Leoncavallo, Mascagni et surtout Puccini. Les œuvres de ce dernier, il faut le dire, éclipsent quelque peu ses consoeurs, et c'est le cas pour Fedora. Ce qui le tire de l'ombre, en revanche, mis à part ses mérites musicaux, il faut quand même le dire au passage, ce sont les interprètes qui l'ont consacré. D'abord, glissons que c'est Sarah Bernard qui a créé le rôle de Fedora dans la pièce de théâtre originale de Victorien Sardou. Ensuite, il y a les solistes qui ont pris les rôles dans l'opéra de Giordano. La première Fedora fut Gemma Belinconi, soprano natif de Lombardie qui incarnait tous les plus grands rôles de son temps et pas que ceux de l'opéra italien. Celui qui créa le rôle de Loris, c'est Enrico Caruso, ténor napolitain, alors en début de carrière, qui n'allait plus s'arrêter. On va l'entendre ici, dans un des airs les plus connus, dans l'air le plus connu de cet opéra, Amortivieta, avec le charme de l'ancien. Cet air donc, celui de Loris au premier acte de Fedora, Amortivieta, qui se retrouve littéralement sur toutes les compilations de ténors, de Caruso donc, à Kaufmann, en passant par Jussi Björling et Pavarotti. Le troisième acte de Fedora s'ouvre sur un charmant paysage alpin, dans le Berner Oberland, quelque part au-dessus de Thun. Écrin d'amour pour Fedora et Loris qui sont parvenus à fuir Paris. Depuis quelques mois, ils vivent heureux et cachés en compagnie de la comtesse Olga qui s'est mise au vélo. Voilà, c'est son nouveau truc. C'est un acte aux couleurs champêtres dans lequel les considérations varient. Les uns pensent les blessures d'une histoire de meurtre et d'adultère, les autres moulinent dans l'école. Un charmant cœur de bergère ouvre la première scène, un après-midi de mai. Olga et Loris chantent leur amour. En parlant de vélo, le diplomate de Syrie débarque en biclou en mode Ferdi Kubler et apporte de terribles nouvelles. Souvenons-nous que Loris a trucidé Vladimir, feu le futur mari de Fedora, en vertu du fait que sa propre femme le trompait avec. Et il faut bien se rappeler ça, donc il y a une histoire d'adultère commune, ils sont unis par la cocufiante réalité de leur couple. Jusqu'ici, tout va bien. Ça, c'est pas un problème. Rappelons-nous aussi que Fedora, avant d'apprendre que son galant jouait à la bête à deux dos avec la femme de Loris, avait remis un pli à la police tsariste, révélant l'identité du meurtrier de son fiancé, parce qu'elle voulait se venger à la base de Loris avant de tomber amoureuse de lui. Elle s'en repent à présent, puisque de Syrie affirme que le père de feu Vladimir a entrepris de se venger et a fait arrêter le frère de Loris, au motif qu'il était complice du meurtre. Et ce frère est malheureusement mort noyé des suites d'une bête histoire de crue. Oui, puisqu'il était en tôle dans une forteresse, n'est-ce pas? Et puis l'eau du fleuve a monté, et puis ça a inondé tout le bazar, et puis voilà, il a calanché dans la flotte. Leur moment, on est également décédé de chagrin. À la suite de cela, Olga et De Syrie s'en vont tourner les jambes, en tout bien tout honneur, il s'agit de bicyclette, et Fedora se retrouve seule avec un Loris dévasté. Sur le champ lointain d'un jeune pâtre, elle supplie le Très-Haut qu'il ne découvre pas qu'elle est à l'origine de la lettre qui a causé la mort de sa famille. « C'est Eva Marton qu'on entend ici en Fedora. Comme les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules, Loris reçoit une lettre de son pote Borov, qui lui révèle que c'est une Russe habitant Paris qu'il a dénoncée à la police. Mais alors son nom, parce qu'il n'est pas écrit son nom, il demande son nom, son nom, son nom. Fedora, sans le vent tourner, parce que c'est elle qui a écrit cette lettre, elle se saisit de la croix byzantine qu'elle porte au cou et verse en loose dé le poison qu'elle contient dans sa tasse de thé. Voilà, c'est pour aussi des fois, comprenez. Elle implore Loris, mais elle lui dit « Cette femme, si elle se repentait de son crime, lui pardonnerais-tu » Que répond Loris ? « Des clous !»« Fedora, tu ferais mieux, car cette femme, c'est moi !» On est presque au cinéma, là, avec Placido Domingo en Loris et Angela Gheorghiu en Fedora, alors que le premier apprend la trahison de celle-ci. Serpent, je t'écrase! Serpente ti schiaccio! Tout se passe alors très vite. Fedora court à la desserte sur laquelle elle avait laissé sa tasse de thé empoisonnée. Et, gloups, elle tète tout son contenu d'un seul coup. Avec toute la lucidité d'un Henri IV sous le poignard de Ravaillac, rue de la Ferronnerie à Paris, Fedora confesse « Je meurs ». Terminons tout de même, l'opéra s'achève sur un paroxysme de drame et de douceur, un Loris bouleversé qui tient son amie expirante dans ses bras. Au loin, le jeune berger chante toujours sa chanson qui prend maintenant un tout autre sens « Ma petite montagne ne reviendra plus ».« J'ai froid », dit Fedora. « Comme j'ai froid, réchauffe-moi, Loris, je voudrais encore un peu de ton amour ». Le chant du cygne de Fedora, ici interprété par Magda Olivero, accompagnée par l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo. On va voir si tout le monde a bien tout retenu. On est présentement avec Marcel et Olivia. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
J'espère que vous avez été extrêmement attentif. Marcel, vous avez les codes, vous pensez, pour obtenir ces deux billets pour aller voir Fedora?
Alors, on verra ça à la fin, je crois.
Olivia, est-ce que...
Mais j'ai pas tout écouté, puis ça m'a l'air d'être une histoire sacrément compliquée.
Mais Olivia, Olivia, est-ce que vous avez les épaules? Là, tout à coup, vous me confessez que non, j'ai peur pour vous.
Ah ben tant pis, on a essayé.
Non, alors sachez, Marcel et Olivia, sachez qu'on est dans la même équipe. Vous êtes dans la même équipe, et puis moi je vais tenter quand même de vous aiguiller un petit peu sur des questions qui sont très pointues musicologiquement parlant. Alors, est-ce que vous êtes prêt, Marcel?
J'ai beaucoup ri hier.
Oui.
Olivia, vous êtes prête?
Tout à fait.
Première question. Quel bijou porte Fedora autour de son cou? Trois propositions de réponse. A. Une dent de requin. B. Une croix byzantine. C. Une croix de Saint-André.
Une croix byzantine.
Olivia, vous dites une croix byzantine, Marcel?
Oui, une croix byzantine.
La même chose, B. Oui, oui.
Une croix byzantine. C'est pas une croix de Saint-André. Elle a pas un passé dans la charpente, Olivia? D'accord, vous avez raison, c'est bien une croix byzantine, bonne réponse. Deuxième question, au troisième acte de l'opéra, comment le diplomate français de Syrie rejoint ses amis? Il arrive en Tesla, il arrive à pied ou il arrive à bicyclette? Marcel, une idée?
On dirait à pied.
Olivia, vous pensez
pied,
qu'il arrive comment?
À pied.
Mais vous savez, c'est la montagne, hein, ça va très lentement.
Parce que la Tesla est en panne.
Vous pensez qu'il n'avait plus d'électricité, il a dû poser la voiture à Thun? Mais attendez... Olivia, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, parce que arriver à pied comme ça dans l'Oberland bernois, fin 19e, il n'y a pas beaucoup de sentiers, il vaut mieux... Enfin, il y a déjà quelques sentiers, il vaut mieux rouler, vous ne croyez pas?
Vous croyez qu'il y avait une bicyclette dans un Fedora? Je ne sais pas, j'ai pas suivi ça.
Marcel, aidez-nous.
Alors, on va dire qu'il roulait. Hein. Il roulait. Effectivement, c'est plus simple pour arriver à bon port.
Quoi. La bicyclette?
Pour monter là-haut. Alors, il est allé en bicyclette, oui.
Mais c'est ça, vous avez raison. Mais Olivia, vous êtes d'une vivacité d'esprit.
Ah là là, vous êtes un chevalier servant.
C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Il va falloir encore répondre à une question. La plus importante peut-être. Attention, Marcel. Olivia, comment meurt Fedora? Elle se donne la mort à l'aide d'un poison, elle se fait renverser par une cycliste ou elle fait une embolie pulmonaire? Marcel.
Alors, elle s'empoisonne.
Alors l'empoisonnement semble être la bonne.
Olivia?
Elle s'empoisonne avec son petit thé qu'elle avait préparé.
Il faut faire attention au genre de tisane qu'on consomme, surtout à l'opéra.
Oui, c'est dangereux.
Écoutez, Marcel, Olivia, je suis très heureux parce que je vous annonce que vous avez remporté une paire de billets chacun pour aller voir Fedora ce samedi 14 au Grand Théâtre de Genève. C'est merveilleux.
C'est gentil. Hein.
Marcel, vous allez y aller avec qui?
Avec mon ami.
Vous allez aller avec votre plus 1, d'accord? Et puis vous, Olivia?
Bah alors, j'ai deux puces à choix, je verrai la puce qui est libre. Une Jeannette ou une Ginette. Une Jeannette ou une Ginette, c'est drôle, non?
De toute façon, ça finira en « être », si j'ai bien compris.
Mais c'est ça, ça va être des « être » pour samedi, on va faire des téléphones, c'est trop bien. Merci beaucoup.
Je vous en prie, en parlant de téléphone, je vais vous demander de rester hors antenne avec moi pour que je puisse prendre vos coordonnées. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne représentation, une bonne soirée, Marcel, Olivia.
Merci beaucoup, merci. Puis merci pour votre émission, génial.
Merci, au revoir.
Ah ouais, merci.
Thank you.
L'ouverture d'Egmont de Ludwig von Beethoven, une interprétation musclée de Leonard Bernstein avec les Wiener Philharmoniker.